Bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro des entretiens de Chauffard. On retrouve aujourd'hui Gabriel Lévy, qui est le fondateur, l'animateur de Chauffard, pour une réflexion sur un sujet qui a fait couler vraiment beaucoup d'encre, la division de la société israélienne, précisément entre les laïcs et les religieux, les incompréhensions, les craintes aussi, et les conflits que cette division avait générés. Bonjour Gabriel Lévy.
Bonjour Antoine.
Alors, vous nous proposez donc de réfléchir finalement au soubassement de ces tensions entre les religieux et les non-religieux, sur les malentendus, les images parfois déformées aussi de la réalité que chacun peut percevoir. Le monde laïque en Israël, en tout cas, a souvent une image négative de la vie religieuse. L'idée, par exemple, que la Torah impliquerait un renoncement à une certaine forme de vie, que le système des commandements n'est finalement que contrainte et que cela débouche sur une forme d'enfermement par rapport à la vie réelle, à la vie complète. Et si l'on y prend garde, eh bien, et si on écoute certains laïcs, Israël risquerait de devenir une théocratie si on les laissait faire, si on y prenait garde, à l'instar de ce qui se passe en Iran. Alors, évidemment, j'imagine que vous n'avez pas la même vision, c'est même de la Torah. Vous pensez que ces craintes souvent évoquées ne sont pas fondées. Vous allez nous dire pourquoi, Gabriel Lévy?
Je pense qu'en effet, on a une responsabilité de réfléchir à ce sujet-là en ce moment. On a eu une période de fracture dans le peuple et dans l'État d'Israël avant le 7 octobre. Et là, c'est vrai que le 7 octobre, avec l'unité qui ressentit l'engagement dans la guerre, crée une espèce de parenthèse. Mais ces sujets-là ne se sont pas évaporés. Ils risquent de revenir et peut-être même revenir plus fort avec toute la charge et les tensions de ces derniers mois. Donc on doit réfléchir à quoi étaient dues finalement ces fractures-là. Et même si ça s'est cristallisé autour de la réforme judiciaire, en réalité, lorsqu'on écoutait les micro-trottoirs, lorsqu'on écoutait les gens, ce qu'on voyait, c'est que pour une grande partie du public, qu'on pourrait appeler le public laïque, le public libéral en Israël, il y a une espèce d'angoisse face à une réalité de l'État d'Israël et du peuple juif qui peut-être change au niveau démographique, où le public religieux prend plus de place, y compris au niveau du pouvoir. Et donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur quelle image finalement ce public-là a de ce qu'est la Torah, de ce qu'est l'identité juive, qui est aussi son identité juive. Et on doit se poser la question, lorsqu'on voit ce niveau d'angoisse, d'incompréhension, de crainte, comme vous avez dit, qu'on devienne une espèce de théocratie, d'une espèce d'État liberticide, etc. On doit, c'est notre responsabilité de se poser la question de quelle image de la Torah on renvoie et comment c'est possible que une grande partie de nos frères ait une image tellement négative.
Alors ça, effectivement, on reviendra sur peut-être parce qu'ils perçoivent aussi dans le monde religieux une manière d'hostilité ou d'exclusion. Mais peut-être que vous allez pouvoir nous dire comment il faudrait ou on pourrait présenter la Torah et ce qu'elle apporte à toutes dans toute la société, à tous les niveaux. Comment pourrait-on la présenter pour que précisément ces aspects négatifs soient effacés pour devenir, au contraire, des aspects positifs.
Avant de rentrer dans comment présenter les choses, je pense d'abord qu'il faut, on a la responsabilité de prendre ces points qui sont des points de rupture, ces zones d'angoisse-là sur l'image qu'ils ont de la Torah, et voir est-ce que c'est vraiment ce qu'on dit, est-ce que c'est vraiment ce que la Torah dit, est-ce que c'est vraiment ce que le judaïsme dit, ou est-ce que c'est une caricature, un miroir déformant, une démonisation, ou peut-être qu'on n'a pas les bons porte-parole pour expliquer ce qu'on a à dire. Mais en tout cas, on doit maintenant essayer d'avoir une réflexion de fond sur ces sujets-là et voir est-ce que, fondamentalement, c'est ce que la Torah dit. Mon analyse est sur deux points en particulier. Le premier point, c'est une espèce de vision dans laquelle l'impression est que le judaïsme ou la Torah serait un renoncement à certaines forces de vie, un renoncement aux sciences, aux arbres, un renoncement à une expression complète de ce que la vie a apporté, de ce que le monde a apporté, pour se focaliser uniquement sur un faisceau de lumière. Il n'y aurait qu'un faisceau de lumière, qui est celui de la maison d'études, celui de la maison de prière, et tout se trouve là-dedans. Et le reste du monde, soit on s'en désintéresserait, soit on serait au contraire hostile. Cette conception-là, qui est une conception qui évidemment crée une espèce de crainte, d'angoisse, de peur, quoi, toutes les richesses que je ressens dans cette vie qui est multicolore, qui comporte tellement d'aspects, à nouveau de science, d'art, etc. On devrait se couper de tout. C'est ça ce que le judaïsme prendrait. Et donc on a besoin maintenant de revenir, de faire une espèce de retour aux sources pour dire, est-ce que c'est vraiment ce que le judaïsme dit? En réalité, plus on étudie et plus on rencontre ce que la Torah a à dire, plus on se rend compte qu'on n'est pas face à un message qui est exclusif, mais un message qui est inclusif. On n'est pas face à un message qui propose une voie d'élévation qui ne se ferait que à travers un faisceau de lumière extrêmement précis, qui est celui de la maison d'études, celui du livre, celui de la prière, etc. Mais au contraire, la Torah propose un message qui est censé donner du sens à tous les aspects de la vie humaine. J'aimerais, pour arriver un petit peu à comprendre cette idée-là, le faire à travers un midrash que je trouve très fort. Lorsqu'on nous parle de la création du monde, dans le premier chapitre de la création du monde, le nom de Dieu qui apparaît est le nom Elohim, qui est un des noms de Dieu. Dès qu'on arrive au deuxième chapitre, l'histoire de la création est terminée, on a eu les sept jours de la création, le monde est créé, et là on voit qu'apparaît le nom Hashem Elohim. Okay, donc le tétragramme, Yud-Ké, Vav-Ké et Elohim. Il y a les deux noms qui apparaissent ensemble. Et le Midrash vient dire quelque chose qui est très fort, de manière très concise. Le Midrash dit « Ki Shem Malé Alolam Malé ». Le nom entier ne peut se dévoiler que sur le monde entier. C'est-à-dire que tant que le monde n'était pas complètement créé, alors toute l'entièreté de notre rapport au nom divin, de notre rapport à son dévoilement, ne pouvait pas se faire. Le dévoilement ne peut se faire, le nom complet, le projet complet, le nom complet, le dévoilement complet, ne peut se faire que lorsque le monde entier, le Olam Malé, est créé. Et c'est une idée qui est très forte, qui est très profonde, qui est le fait de dire que notre capacité à être en contact avec ce qui nous dépasse, à peut-être jouer le rôle, qui est le rôle que la Torah essaie de nous donner, ne peut se faire que à travers un monde qui est un monde complet, qui comporte toutes les forces de la réalité. Je pense que c'est une idée qui est extrêmement importante, qu'on retrouve dans énormément d'endroits dans la Torah. La Torah propose un message qui est un message de réparation globale de la réalité, pas uniquement voilà le peuple du livre qui se limite uniquement à une démarche intellectuelle ou spirituelle d'étude, mais quelque chose qui est au contraire une volonté de réparation et de donner sa place aux différentes forces. Donc on est loin de cette conception-là, qui est une conception de le judaïsme et la Torah serait un renoncement aux différentes forces de vie, à l'art, à la technologie, à la science, etc. Au contraire, le message de la Torah ressemble beaucoup plus à un message de chef d'orchestre qui prendrait tous ses instruments et toutes ces différentes couleurs pour leur donner leur place, les raffiner, les élever chacune comme elle doit apparaître, plutôt qu'une espèce de vision comme ça d'enfermement où il y a un désintérêt des différentes forces de vie, un désintérêt de que s'épanouisse tout ce qui est dans l'homme pour se concentrer sur quelque chose qui serait extrêmement réduit.
Oui, alors cela dit, pour ceux qui, je me remets dans la position donc de ces fameux laïcs qui ont cette image négative et à qui finalement vous parlez, Gabriel Lévy, qu'est-ce que ça va, en quoi finalement cette vision-là va aussi transformer ou apporter quelque chose à la vie laïque sans forcément qu'il y ait cette contrainte religieuse qui fait peur?
Non, je pense que à partir du moment où déjà, on s'éloigne d'une conception erronée dans laquelle il y aurait une espèce de négation ou de désintérêt de toutes les aspects, de toutes les forces de vie, etc. Déjà, on a déjà fait un premier pas. Après, est-ce qu'on a besoin d'un message éthique, d'un message qui va venir diriger nos différentes forces de vie? Ça, je pense que toute personne humaine, avec un minimum de sagesse et d'humilité, peut être à l'écoute du fait que, en effet, la réalité humaine et la réalité du monde est suffisamment complexe, on peut suffisamment se prendre les pieds pour avoir envie d'être à l'écoute d'un message qui a peut-être quelque chose à apporter sur comment gérer et comment épanouir toutes ces forces de vie. Dans le Zohar, les mitzvot sont appelés Targag Ritin des Malkas, les 613 conseils du roi. C'est très fort. Au lieu de parler de commandement, on parle de conseil. C'est-à-dire comment réussir à prendre toute cette potentialité de vie qu'on a en nous, et on sait à quel point on a des forces de vie qui peuvent s'exprimer des fois de manière chaotique, de manière qui n'est pas juste, ou une force empiète sur une autre force, etc. Dire non, j'ai besoin d'un message qui va venir proposer une espèce de mode d'emploi, une espèce de capacité de raffiner ces différentes forces, qu'elles trouvent leur place. Mais déjà, on est loin de cette conception-là qui voudrait ne rencontrer le divin uniquement dans quelque chose qui est extrêmement focus, extrêmement limité. Et au contraire, et c'est important, c'est la responsabilité qu'a aujourd'hui le monde juif, le monde de la Torah, de dire au monde laïque, les richesses de vie que vous cherchez et que vous avez, on ne cherche pas à les nier, on ne cherche pas à s'en exclure. Au contraire, nous aussi, on pense que ce que la Torah a proposé, c'est comment épanouir toute cette réalité-là. Comment apporter cette réalité-là peut-être une certaine direction, comme on a dit, comme le chef d'orchestre qui va proposer la juste place de chacun des instruments. C'est à mon avis ça le message qu'on doit être capable de proposer.
Est-ce que ça veut dire, Gabriel Lévy, que en quelque sorte la Torah devrait être naturalisée, en quelque sorte rentrer dans la vie concrète et pas venir comme ça, comme un deus ex machina, venir donner des ordres?
Alors, on va arriver à ce point-là. En effet, dans cette réflexion-là d'une image parfois fausse, erronée, qu'a le monde laïque de ce que la Torah et ce que le judaïsme a proposé, on a vu le premier point qui est ce point-là d'une Torah qui nierait, qui serait dans un désintérêt des différentes forces de vie. Je pense qu'il y a un deuxième point qui est extrêmement important, qui est ce qu'on pourrait appeler la notion de Derech HaTeva, du fait que les choses doivent aussi s'exprimer dans un langage qui est un langage de nature. Alors, il faut juste que j'essaie d'expliquer cette idée-là. Il y a certaines conceptions aujourd'hui qui sont exprimées au nom de la Torah, qui, à mon avis, ne sont pas justes, et en tout cas qui sont entendues par le monde laïque et qui ne sont pas audibles. C'est une conception comme ça qui vient nier le fait qu'il y a une manière naturelle de gérer les choses et de gérer le monde. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, une partie du monde religieux puisse dire « on ne va pas s'enrôler, on ne pense pas finalement que ce soit l'armée qui décide si oui ou non on est protégé ou pas, il suffirait d'étudier, il suffirait de prier pour, etc. » C'est évidemment une conception qui est inaudible pour un monde laïque, mais c'est surtout une conception qui n'est pas une conception juive, qui n'est pas une conception de Torah. Et c'est important, à mon avis, de prendre le temps de, lorsqu'on se rend compte que il y a un miroir déformant, qu'on dit des choses au nom de la Torah, mais qui sont fausses et caricaturales, on doit revenir aux sources et on doit dire qu'est-ce qu'on a vraiment à dire là-dessus. Prenons par exemple le sujet qui est le sujet, on a déjà parlé sur Shofar, qui est le sujet de l'enrôlement, de l'armée, etc. Nos textes sont extrêmement clairs. On a une mitzvah évidente de protéger protéger notre peuple par les armes. D'accord? Ça apparaît dans le traité de Sota, ça apparaît dans Maïmonide de manière claire dans Ilchot Melachim au 5e chapitre, que tout le monde doit sortir pour protéger en cas de danger. Si maintenant ceux qui sont responsables de la sécurité disent on a besoin de tous les hommes, alors tous les hommes doivent venir, y compris le marié le jour de son mariage doit venir et doit se poser. Donc on voit que la Torah parle un langage qui est un langage entre guillemets de responsabilité naturelle. On ne compte pas sur une espèce d'intervention miraculeuse. Le Ramban Nachmanide le dit expressément lorsque la Torah parle du fait qu'on a besoin de faire le compte du nombre d'hommes qui ont dépassé un certain âge. On a besoin de faire un certain compte dans la Torah, dans la paracha de Pekoudé, si je me trompe pas. Le Ramban Nachmanide dit, parce que la Torah veut savoir combien de soldats on a pour la guerre, parce que la Torah ne veut pas compter sur le miracle, sur une espèce d'intervention, les choses se feraient sans nous. Mais ça va plus loin que ça. C'est pas uniquement au niveau de l'armée et au niveau militaire, ce qui est évidemment le sujet qui aujourd'hui préoccupe la société israélienne. Mais c'est une manière générale de voir les choses.
Excusez-moi, mais quand même, là, il se trouve que vous dites que c'est dans les textes, que c'est évident. Bon, il se trouve qu'il y a une grande partie des orthodoxes qui ne pensent pas comme ça. Alors, comment vous expliquez que cette évidence ne leur apparaisse pas?
Premièrement, une immense partie du monde orthodoxe, y compris le monde Haredi, avec qui on a une certaine différence, une certaine discussion, mais y compris le monde Haredi, la plupart sont d'accord qu'il faut une armée et qu'il faut jouer le jeu d'une intervention naturelle. Là, je viens essayer d'aller un petit peu plus loin sur certains discours qui, à mon avis, ne sont pas authentiques, qui viendraient dire, finalement, il suffirait de prier, il suffirait d'étudier, etc. Ce discours-là, à mon avis, n'est pas un discours de Torah. C'est un discours qui vient nier la dimension naturelle. Dans le Talmud, dans le traité de Shabbat, on nous dit très clairement le fait que l'interdit d'une personne de se mettre en situation de danger en disant qu'un miracle va être fait pour lui. D'accord ? On doit gérer la réalité justement avec ce langage qui est le langage de nature. Et si on expliquait pourquoi, le Rav Kook explique justement à partir de ce passage dans le Talmud, explique le fait que c'est pas pour rien que le monde fonctionne avec cette dimension naturelle. C'est pas pour rien qu'on a cette obligation-là, par exemple, de défendre le pays. C'est pas pour rien qu'on a une obligation de subvenir à ses besoins au niveau naturel, d'avoir un métier. C'est pas pour rien qu'on nous demande d'aller chez le médecin et de faire tout ce qu'il y a à faire pour des... C'est pas pour rien tout ça. Le fait que soit instauré un monde de nature, ça permet l'action de l'homme, ça permet la responsabilité humaine. La conception caricaturale et fausse qui viendrait dire qu'au final l'homme serait complètement passif et devrait être uniquement d'une espèce de prière pour que les choses se fassent sans lui, c'est pas une conception juive. La conception juive, c'est que justement Dieu va prendre un pas en arrière pour laisser la responsabilité à l'homme. Pour faire le monde de nature, le monde où il n'y a pas une intervention permanente, permet cette possibilité-là d'action et de responsabilité humaine.
Ah, vous parlez de monde de nature, mais on entend souvent un peu le contraire, à savoir que justement le judaïsme, c'est d'aller au-delà de la nature, de ne pas se conformer à la nature, d'avoir une forme d'extériorité transcendante qui n'est pas précisément naturelle. Est-ce que ça ne s'oppose pas à ce que vous dites ?
C'est au sein d'un monde où justement la place est laissée à l'homme, la responsabilité est laissée à l'homme, être capable par l'homme, pas que ça se fasse de manière passive, que l'homme arrive à façonner, réparer, améliorer les choses de manière, par son action. Le monde du miracle est un monde dans lequel l'homme est passif. Beaucoup de textes nous disent que justement... La sortie d'Égypte où on va mettre en avant cette réalité miraculeuse, c'est une réalité qui se fait lorsque le peuple juif naît. On est encore dans une dimension qui est encore quasiment enfantine. Lorsque le peuple juif va devoir rentrer en terre d'Israël, on va cesser un petit peu ce langage-là. Il n'y a plus de manne qui tombe, il n'y a plus de nuée qui protège. C'est à vous maintenant de prendre cette responsabilité-là. Et et justement, tout l'enjeu, c'est d'arriver à incarner un certain monde de valeurs, un certain message au sein d'un monde de nature. Est-ce capable maintenant de combattre avec les armes, d'être face à des ennemis qui sont si difficiles, de trouver en nous les forces et les raisons pour lesquelles on va être capable de combattre, et de combattre d'une autre manière peut-être.
Vous parlez de combattre, mais finalement ça concerne aussi tous les secteurs de la vie, j'allais dire d'un État, d'une nation, et il y a quelque chose à développer beaucoup, j'imagine, au niveau de la Torah, qui n'a pas été forcément fait par la force des choses, qui concerne précisément tous les secteurs économiques, sociaux, etc.
C'est sûr que pendant la période d'exil, cette responsabilité-là était plus sur l'individu. On n'avait pas de réalité collective où on devait gérer l'aspect économique, sociétal, militaire, etc. Et là, on doit revenir à une responsabilité, une responsabilité globale. Et la Torah parle justement de comment gérer une société, proposer un modèle de société dans lequel on a une responsabilité active, mais qui va essayer de diriger, la Torah va essayer de diriger toute une vie de société pour l'élever, pour la raffiner, etc.
Et ça, ça peut être accepté par des laïcs, vous diriez cela, tel que vous le formulez. Parfois, on peut dire, ah, mais on n'a pas forcément envie d'être dirigé par quelque chose qui ne serait pas ce que nous avons décidé, nous.
Évidemment, évidemment que tout doit se faire par une volonté qui est une volonté intérieure. D'accord? Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et profond. On ne veut pas ce choix-là de vivre d'après un certain message, des valeurs juives, des valeurs de la Torah. On veut pas que ça se fasse comme quelque chose d'extérieur, d'imposé. On veut que ça vienne de l'intérieur. Et pour ça, il faut que le judaïsme et la Torah soient capables de montrer, de proposer ce en quoi c'est un message qui apporte. Mais avant d'être capable de montrer ce en quoi c'est un message qui apporte, et c'est une grande partie, à mon avis, de la responsabilité, on doit d'abord faire face à pourquoi ce message-là est fait tellement peur. Pourquoi ce message-là a une si mauvaise image? Avant de voir comment on va y avoir un moteur de rapprochement, quels sont les freins? Quels sont les freins qui font qu'on n'a pas envie de se rapprocher? Et donc là, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est sur deux plans en particulier. Le premier plan, c'est une vision qui serait une vision comme ça, exclusive, où il n'y a de place que pour l'étude, la maison de prière, etc. Non, au contraire, Shem Malé al Olam Malé, un nom complet ne peut venir que sur un monde complet. La Torah comme voulant faire s'épanouir et peut-être donner les conseils pour que s'épanouissent toutes les forces de vie, que ce soit l'art, que ce soit la technologie, que ce soit la science, etc. C'est important de se rendre compte que c'est ça ce que la Torah dit, premièrement. Et deuxièmement, une Torah qui est capable de parler un langage qui est un langage de responsabilité, d'action, d'être capable de parler le langage qui est le langage du Derech HaTeva, le langage d'un monde de nature où lorsqu'il y a des guerres, on a besoin de s'envoler, où il y a une responsabilité qui est une responsabilité sur l'homme.
Alors, je comprends bien, vous enlevez finalement les obstacles qui empêchent la compréhension, après le dialogue peut commencer. Il n'empêche que, quand bien même la vision des laïcs serait donc erronée aujourd'hui, et pourquoi ces obstacles finalement sont là, c'est quand bien même parce qu'il y a des raisons, parce que justement ils regardent ce qui se passe dans les milieux orthodoxes et ils se disent que c'est pas très convaincant, notamment quand précisément des gens de Torah semblent vouloir vivre reclus avec précisément la vie qui n'entre pas ou la vie qui reste séparée de la vie. Cette image-là, il faudrait aussi changer cette image-là finalement pour lever les obstacles.
Premièrement, c'est une très bonne question, et je pense que c'est une question qui doit être posée aujourd'hui au monde charedi, au monde orthodoxe. Il y a certaines questions qui doivent être posées, ça doit se faire de manière évidemment comme entre frères, comme un discours qui se ferait dans la famille. La conception qu'on essaie de donner ici, une conception qui va plus dans la ligne de pensée du monde sioniste religieux, du monde de la pensée du Rav Kook, etc. Et donc oui, il y a certaines questions qu'on doit poser aujourd'hui au monde orthodoxe, au monde charedi. Pour aller un petit peu au-delà de ça, je pense qu'une grande partie de ce que j'ai dit ici, la plupart du monde charedi est d'accord. Et souvent, ce sont pas forcément les bonnes personnes qui prennent la parole, et c'est pas forcément les visions les plus fines qui sont mises en avant. Est-ce que c'est dû, on va dire, aux médias qui vont essayer d'aller chercher les personnes qui sont les plus extrêmes, les plus choquantes? Parfois. Est-ce que c'est aussi une responsabilité de la part du monde religieux qui ne met pas en avant les personnes qui sont capables de proposer le message de la manière la plus profonde et la plus fine? Aussi. Donc il y a parfois comme ça une espèce de caricature, quelque chose qui n'est pas forcément juste. Et moi, pour parler avec beaucoup de mes amis ou de ma famille qui sont plus dans le monde orthodoxe, on est d'accord sur une très très grande partie des choses. Au-delà de ça, il faut pour ça, à mon avis, prendre une vision, un petit peu de perspective historique. On est dans un processus qui prend du temps. Le peuple juif revient après 2000 ans d'exil, on revient sur notre terre, on reprend une dimension nationale, on est à nouveau responsable de toutes sortes de choses dont on n'était pas responsable jusqu'à maintenant. C'est des processus qui prennent du temps. Il y a une image que j'aime bien aussi, qui est l'image d'un de mes maîtres, qui dit que le retour des exilés, ça ressemble un petit peu à une recette de cuisine où on remet plein d'aliments en présence. Comme, imaginez-vous, un chulent ou je sais pas quoi, quelque chose comme ça qui mijote, où on prend un petit bout de viande, etc., des légumes, et ces choses-là, elles vont mijoter ensemble. Pendant 2000 ans, on n'était pas ensemble. Et là, il y a quelque chose qui peut, il y a une dialectique, il y a une alchimie qui peut se refaire. Justement dans le fait qu'on ait ces dialogues-là, justement dans le fait qu'il y ait ces incompréhensions et qu'il y ait ce dialogue lorsqu'il est bien fait, alors les éléments sont à nouveau en présence et des changements peuvent se faire. Faut comprendre aussi que le monde haredi, le monde orthodoxe, a pris une responsabilité après la Shoah, qui est une responsabilité de faire renaître, de faire revivre un monde qui avait été décimé, le monde de l'étude qui avait été décimé. Et donc, certains choix ont été faits. Par exemple, le choix qui n'a jamais existé dans le monde juif de quasiment qu'un pourcentage extrêmement important vont se dédier à l'étude. Uniquement. Sans forcément travailler, sans, c'est quelque chose qui n'a pas existé dans le monde juif. Quelque chose qui vient pour répondre à une situation exceptionnelle où le monde de l'étude a été décimé. Et donc, je pense qu'une grande partie du monde orthodoxe est conscient du fait que c'était important pour une certaine période. Cette mission-là qu'ils ont pris sur eux, elle a apporté ses fruits. Et on est aujourd'hui face à un monde de l'étude qui refleurit. Mais il y a cette importance-là maintenant de que les choses évoluent, que les choses changent, et ça se fait un peu comme cette recette de cuisine, justement dans le fait que différentes forces, le monde sioniste religieux parle au monde haredi, dit voilà, on n'est pas d'accord sur ABC, le monde laïque dit est-ce que vous véhiculez une image de la Torah qui est une image avec laquelle on peut s'identifier, et de cette manière-là, hein, à mon avis, les changements peuvent se faire et doivent se faire.
Sauf que certains quand même prétendent qu'il y a une vérité à ce que la Torah soit maintenue hors de l'histoire, que c'est quelque chose qui est ahistorique et que donc elle n'a pas à être mêlée au monde forcément pour et que il faut maintenir simplement cette pureté de l'étude.
Je pense que si on rentre dans les profondeurs des choses, tout le monde est d'accord que la Torah parle d'un message, qu'un message éthique intégré à une société. Les personnes, lorsqu'ils étudient des traités du Talmud, ils étudient des règles qui sont des règles de justice économique, de justice sociale. Donc, c'est évidemment intégré à une vie de société. C'est évident. Toute personne qui étudie le traité de Ktubot sait clairement que c'est une obligation pour le mari d'aller travailler pour sa famille, etc. Évidemment qu'on est d'accord sur 99% des choses. Il y a eu, à mon avis, un certain besoin à un moment de mettre en avant une certaine vision de la Torah qui est plus exclusive parce qu'il fallait reconstruire un certain monde de l'étude. À mon avis, il va y avoir un retour aux sources. Et j'ai vraiment confiance dans ce processus-là. Mais j'espère qu'on doit y participer aussi en disant ce en quoi on n'est pas d'accord, et c'est aussi ce que j'essaie de faire ici, en proposant une autre vision, en disant à la fois au monde laïque, ce que vous percevez de ce que la Torah a à dire est une vision, à mon avis, fausse et caricaturale, et c'est important sur ces deux points, à nouveau, le point d'une Torah qui veut épanouir toutes les forces de la réalité et toutes les forces de vie, premièrement, et deuxièmement, une Torah qui est capable de prendre ses responsabilités dans un langage qui est un langage de nature et un langage de pas passif mais actif. Premièrement, parler à ceux qui ne s'identifient pas au monde de la Torah et dire peut-être que vous avez une image qui est une image erronée. Venez étudier, c'est aussi votre message et votre héritage. Et c'est dommage que vous ayez une vision qui soit une vision erronée. Et aussi parfois parler à nos frères qui ont une vision différente. Et à nouveau à travers nos sources, à travers cette Torah qu'on a en commun, venir et confronter les avis, et espérer que les choses bougent et que les choses changent.
Combien de temps ça va prendre, Gabriel Lévy? La
Écoutez, il y a
cuisson
une célèbre
du Tchoulent.
il y a une célèbre une célèbre Gemara dans le traité de Brachot, dans le Talmud de Jérusalem, qui dit que la délivrance d'Israël se fait comme le lever du soleil, kim'a, petit à petit. Donc on doit être capable de parler aussi un langage qui est un langage de processus. Je pense qu'il y a énormément de choses qui se font, beaucoup beaucoup de processus qui sont des processus positifs, et les choses avancent. Et justement aussi ces moments de crise, ces moments où se font face deux visions de ce que devrait être l'État d'Israël, ça se font face, et des fois se font face de manière assez difficile, assez violente. C'est aussi des moments où on peut y avoir des sauts de l'histoire, où d'un coup on dit bon, bah, il faut maintenant résoudre ce problème-là. Est-ce que vraiment la Torah dit ça? Est-ce que vraiment vous avez une vision juste de la Torah? Bon, c'est ces moments-là qui sont des moments de crise, sont aussi des moments d'accélération.
Et c'est vrai aussi, vous parlez de ce qui se passait avant le 7, mais c'est aussi vrai avec ce traumatisme du 7 octobre, qui est sans doute un ébranlement aussi pour un nouveau questionnement de chacun
Il y a, non,
sur
il y
son
a, ça,
précédent.
ça a éveillé énormément de processus, y compris dans le monde. Bon, évidemment, le monde sioniste religieux qui de tout temps faisait l'armée, s'enrôlait, etc. Bah, évidemment, là, on voit à quel point il fait partie de l'effort de guerre, etc. À mon avis, aussi au sein du monde Haredi, il y a un mouvement qui est un mouvement qui peut-être ne se voit pas encore dans les journaux, etc. Mais je pense que c'est un mouvement qui est un mouvement intérieur, d'appartenance, de destinée commune, de volonté de volonté d'œuvrer, etc. C'est des choses qui, à mon avis, se font. Et je pense, et ça, on en parle beaucoup dans le Chopard, je pense que toute notre manière de se parler au sein du peuple peut peut-être passer d'un mode qui était un mode conflictuel, un mode où on se faisait face, à une réalité où on serre ensemble, on est dans ce bateau, on est dans ce bateau ensemble. C'est une réalité qui a été beaucoup plus familiale, et on doit être capable maintenant de clarifier ces sujets-là ensemble, entre frères.
Et est-ce que vous ne vous sentez soutenu dans ce mouvement? Il y a beaucoup de gens qui participent à cette volonté de sortir de l'opposition pour ouvrir d'autres débats. Ou est-ce que encore vous avez l'impression d'être pionnier
Bon,
en la matière?
alors, je suis pas du tout pionnier, mais le évidemment, 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 je pense que toute personne qui revient de réserve, toute personne qui était en Milouim, etc., vient avec ce message-là. On combat ensemble, on sait faire face ensemble, etc. On doit être capable aussi dans la société civile de parler différemment. Et bon, évidemment, on a cette problématique-là du monde médiatique et du monde politique qui est fondamentalement, on a déjà parlé dans un podcast précédent, fondamentalement, à une problématique de polarisation. On doit réfléchir à comment réussir à faire face à ces sujets-là, qui sont des sujets de fond, de manière qui ne soit pas conflictuelle, et qui permette à chaque avis de s'affiner au contact justement des autres.
Voilà, c'est aussi un peu donc la vocation de Chauffard, on l'aura compris. Mais merci beaucoup, Gabriel Lévy, pour nous avoir proposé ce chemin qui n'est pas un chemin médian d'ailleurs, qui est un chemin de dépassement de l'opposition à partir du moment où on a levé un certain nombre de craintes qui n'étaient pas forcément correspondaient pas forcément à des réalités, mais plutôt à des angoisses de part et d'autre. Merci vraiment, et puis on se dit à bientôt pour d'autres entretiens sur Chauffard.
Merci beaucoup, à très vite.